Chapitre 78. Les plaines gondolaient à perte de vue. Les forêts bruissaient. Marécages et rivières luisaient comme des lames affûtées sous un soleil jaune pâle. Gabriel traçait sa route, à travers une flore épurée aux dégradés de verre mouchetés de roues flamboyants. Parfois, il traversait des villages où les toits des églises décochaient des reflets d'or. Il devinait des cimetières, des maisons en bois, des voies pavées de pierres et de galets. Il lui semblait s'enfoncer dans la pureté de l'univers, loin du fracas, du béton, de l'éternelle course des hommes contre le temps. Un coin de la planète où on avait gratté le vernis, le mensonge, et où seule subsistait la vérité. C'était peut-être là, dans ce coin minéral de Pologne, qu'elle l'attendait. Il chercha à joindre Paul à plusieurs reprises sans succès. Avait-il interpellé Abergel? Cette absence de nouvelles n'était pas bon signe. Il laissa des messages, puis gagna Bialystok aux alentours de 16 heures. Il s'agissait d'une ville mosaïque, où s'entremêlaient palais baroques, vieilles usines textiles, églises orthodoxes et catholiques. Les façades colorées, les larges avenues modernes contrastaient avec l'image terne et stéréotypée qu'on pouvait avoir des villes de l'ancien bloc soviétique. Le mot « Espéranto » était affiché à tous les coins de rue. Hôtel Espéranto, Espéranto Café. Quand il passa au ralenti devant le mural Ludwig Zamenhof Espéranto, pris en photo par des touristes, il comprit que cette langue internationale était apparue exactement ici, à quelques mètres de lui. Une grande plaque commémorait le docteur Ludwig Zamenhof, né à cet endroit et créateur de l'espéranto. Il se gara à 5 minutes de l'académie de médecine installée au cœur de l'agglomération, dans l'imposant palais Branicki, vestige du XVIIIe siècle. Gabriel n'aurait pas imaginé une telle immensité, avec ses jardins à la française, ses bâtiments universitaires alentour, ses 2 hôpitaux et ses installations sportives. Les étudiants fourmillaient, siégeaient sur les bancs, discutaient entre eux. Des jeunes avec l'avenir devant eux, de futurs médecins, radiologues, chercheurs. Gabriel n'aurait jamais le bonheur d'aller à une remise de diplôme. Cette faculté représentait tout ce qui lui était désormais interdit. L'espoir. Gabriel aborda un groupe à qui il expliqua en anglais qu'il cherchait l'endroit où les corps légués à la science étaient entreposés. Rapidement, un 3e année lui parla du laboratoire d'anatomie et l'accompagna vers l'aile qui l'intéressait. Gabriel se renseigna. Ici, plus de 5000 étudiants polonais, mais aussi d'autres venus d'Allemagne, de Norvège, d'Espagne. L'établissement avait une réputation internationale grâce à sa technologie de pointe et son enseignement de qualité. Laissant derrière eux le musée de l'histoire de la médecine ouvert au public, ils s'enfoncèrent sous les arcades du palais baroque. Après avoir parcouru des couloirs, descendu des marches, le jeune s'arrêta devant une porte vitrée au-dessus de laquelle s'affichait « Hic est locus ubi mors gaudet succurrere vitae ». Ici est le lieu où la mort est heureuse d'aider la vie. Le fameux laboratoire d'anatomie. De l'autre côté du battant, une secrétaire était installée derrière un bureau au téléphone. Gabriel remercia son guide et entra. En attendant qu'elle raccroche, il fit mine de jeter un œil aux brochures qui, vraisemblablement, vantaient les mérites du don du corps à la science. La légère odeur de produits conservateurs agita ses narines. L'environnement, la faculté, la proximité des étudiants. Comment des cadavres avaient-ils pu quitter ces murs pour se retrouver en Belgique? Quand la réceptionniste fut disponible, Gabriel lui expliqua, toujours en anglais, qu'il aurait aimé parler à un des responsables du laboratoire. « Désolé, ils sont en réunion. Vous devez prendre rendez-vous. Nos professeurs sont occupés. C'est à quel sujet ?» Gabriel était dans un état de tension extrême. « C'est très important. Ça concerne des corps référencés chez vous, découverts là où ils n'auraient pas dû être. J'ai fait tout le chemin depuis la France et je ne bougerai pas d'ici avant d'avoir vu un responsable. » Elle hésita, puis finit par se lever en soupirant. Une minute plus tard, elle revenait avec, sur ses talons, un géant en blouse, aux sourcils et aux cheveux couleur banquise. Ses yeux d'un bleu sombre, protégés par une paire de lunettes à la monture circulaire, renforçaient son aspect cadavérique. Gabriel lui donnait au moins 70 ans et avait l'impression qu'un coup de vent aurait pu le casser en deux. Après que la secrétaire eut regagné sa place, l'homme scruta attentivement le visage marqué de son interlocuteur. Il s'adressa à lui dans un bon français, en se tirant le lobe de l'oreille gauche. Sur le devant de sa blouse était écrit professeur Stefan Adamovitch.
L'équipe de direction est actuellement dans l'autre aile. Je suis l'un des professeurs d'anatomie de la faculté. L'assistante m'a parlé d'un problème avec des corps.
Gabriel lui tendit un papier sur lequel il avait noté « Université de médecine de Bialystok, K417 et K442 ».
J'aurais besoin de renseignements sur les deux cadavres portant ces numéros. J'aimerais en savoir plus sur la façon dont ils sont sortis de vos murs pour finir dans des sacs mortuaires au fin fond d'un entrepôt en Belgique.
Le professeur fronça les sourcils.
Un entrepôt? La Belgique? Qu'est-ce que vous racontez?
Gabriel lui montra l'écran de son téléphone. Il fit défiler les clichés, puis zooma aux endroits où l'on voyait les tampons.
Visiblement, ils ne sont pas les seuls à avoir atterri là-bas, expliqua-t-il. Depuis des années, un homme y transporte des corps issus de chez vous et s'en débarrasse en les dissolvant dans de l'acide industriel.
Autre photo. Le cylindre, le visage dévoré, les bras se détachant du corps dans une mélasse couleur terre d'Amazonie. Le septuagénaire resta sans voix, l'œil rivé à l'image.
Les gendarmeries françaises et belges sont sur le coup, continua Gabriel. Si vous ne me répondez pas, c'est à eux que vous aurez affaire très bientôt.
Adamovitch ôta ses lunettes et les garda serrées au creux de sa main.
« Vous n'êtes pas de la police, donc. Qui êtes-vous ? »
« Un père qui cherche la vérité. Et s'il faut patienter durant des heures avant que la réunion se termine et qu'un responsable me l'apporte, cette vérité, alors j'attendrai. »
Le professeur, perplexe, scruta de nouveau sa figure amochée, puis considéra les effroyables photos. Il hocha la tête doucement.
« De l'acide ? » En presque 40 ans de carrière, je n'ai jamais entendu une histoire pareille. Ces corps sont sous notre responsabilité, à tous. Et j'ai autant envie de comprendre que vous. La mort ne vous fait pas peur?
J'ai l'habitude.
Dans ce cas, suivez-moi.
Les deux hommes s'enfoncèrent dans le couloir. Ils franchirent une porte à ouverture magnétique, descendirent une volée de marches qui les projeta dans une vaste pièce où un groupe d'étudiants se serrait autour d'un professeur et d'une table de dissection. Des dizaines d'autres tables reliées à des systèmes d'évacuation et d'aspiration étaient alignées d'une propreté irréprochable. On sentait que l'air circulait, mais les flux n'empêchaient pas les odeurs de formol mêlées à celles des cadavres. Le professeur Adamovitch adressa un bref signe à son collègue et poursuivit son chemin.
« On récupère ici environ 500 corps par an, » fit-il en présentant son badge devant un lecteur. « La plupart sont exploités sur place pour former les médecins. De la salle d'entreposage dans laquelle nous allons pénétrer, ils passent à la préparation, puis à la dissection. Par la suite, ils sont... »
Il chercha ses mots quelques secondes.
« Incinérés. Nous veillons au plus grand respect de nos donneurs. Leur identité ne sont pas divulguées. Les seuls renseignements transmis aux étudiants sont l'âge et la cause du décès. »
« Quand vous dites la plupart... » Adamovitch poussa un battant qui débouchait sur un espace deux fois plus grand. Referma derrière eux et alluma les lumières. Gabriel évoluait à présent dans un univers où la mort régnait, où l'on devinait le tendre feulement de sa faux aiguisée. 8 immenses cuves rectangulaires, transparentes, étaient là, recouvertes d'épaisses bâches tendues par des élastiques. Elles faisaient, au bas mot, 3 mètres de haut. À l'intérieur, des hommes, des femmes, nus, par dizaines, empilés comme des dominos. Avec l'épaisseur du verre, les membres étaient déformés, les visages boursouflés, immondes.
Si je dis la plupart, c'est parce que l'autre partie est revendue à des entreprises polonaises spécialisées en matériel médical. Celles qui ont besoin de perfectionner une prothèse, des agrafes, des outils chirurgicaux, par exemple. Nous fournissons également divers centres de recherche.
Le commerce de cadavres, le business de la mort. Ces abominations dépassaient Gabriel. Dans un silence aquatique, il s'approcha de l'une des piscines. Les lampes teintaient le liquide conservateur en jaune clair, presque sirupeux. Le peuple silencieux de ces eaux aseptisées ressemblait à de grossières poupées caoutchouteuses.
Tout cela est extrêmement encadré et contrôlé, poursuivit le professeur. L'intérêt scientifique des tiers auxquels les corps sont expédiés doit être démontré. Dans le cas où les feux sont au vert, des certificats assurant l'origine des corps sont émis par notre équipe dirigeante. Les entreprises ou les centres que nous fournissons doivent les garder précieusement car ils sont essentiels à la traçabilité. Chaque cadavre qui entre et sort d'ici est enregistré Les informations sont cryptées, dupliquées sur des serveurs. Un certificat chez les clients d'un laboratoire n'a d'existence juridique que s'il est également présent dans nos bases de données. Ce double contrôle permet d'éviter, vous vous doutez, le trafic de cadavres.
Un trafic de cadavres. L'expression fit son chemin dans l'esprit de Gabriel. Il affronta le regard vide d'un être à la tête désormais disproportionnée car trop gonflée, puis baissa les yeux pour remarquer le tampon sur ses hanches. Celui-là portait le numéro K-324.
À qui les corps K-417 et K-442 ont-ils été envoyés ? Demanda-t-il.
Stéphane Adamovitch se dirigea vers un ordinateur posé sur une paillasse au fond de la salle.
« Je n'ai qu'un accès restreint à la base de données. Je ne peux par exemple pas connaître l'identité de ces corps ni leur origine. Mais je peux répondre à votre question. »
Après avoir saisi un mot de passe, il lança un logiciel. Face à lui, de l'autre côté de la paillasse, Gabriel sentit sa gorge s'assécher. Il y était. Il allait enfin avoir les ultimes réponses. La figure d'Adamovitch se crispa. Le carré lumineux de son écran se reflétait dans ses lunettes lorsqu'il observa son interlocuteur d'un air sombre.
« K-417 et K-442 sont effectivement enregistrés. Il s'agit de deux corps de sexe féminin, âge et poids identiques, qui ont quitté nos locaux il y a 12 jours à destination de Piasecno, une ville à côté de Varsovie. C'est là-bas que se trouve le fameux plastinarium du professeur Dmitri Kalinin. »
Dmitri Kalinin, D.K., le quatrième membre de la société. Gabriel était suspendu aux lèvres de l'enseignant en même temps qu'un courant électrique remontait jusque dans sa nuque.
Par plastinarium, vous entendez ?
Un endroit où Dmitri Kalinin écorche les corps humains.